bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans une source vraiment passionnante. C'est le dernier numéro du magazine EcoBusiness de fin 2025. Et il y a un sujet qui écrase un peu tout le reste en couverture. C'est la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui doit démarrer dans quelques jours au Maroc. Notre mission, c'est de regarder ce que ce magazine nous dit sur les coulisses. On va oublier les scores juste un instant et se concentrer sur les enjeux économiques, logistiques, et ils sont, comment dire, gigantesques.
Oui, c'est exactement la bonne approche. Parce que ce que l'article décrit, c'est pas juste une compétition de foot. Non, c'est présenté comme un vrai projet national, une vitrine et surtout un accélérateur économique. Les effets sont attendus bien au-delà des terrains. En fait, le magazine nous explique comment le Maroc voit l'événement. Moins comme une dépense et plus comme un investissement stratégique. Alors allons-y, plongeons direct dans le cœur du réacteur, les retombées économiques.
Et je dois dire que les chiffres cités par EcoBusiness sont vertigineux. On parle de l'arrivée de 500 000 à 1 million de visiteurs étrangers sur moins d'un mois. Et les retombées financières, elles sont estimées entre 4,5 et 12 milliards de dirhams.
12 milliards de dirhams.
Oui. Pour se donner une idée, 12 milliards, c'est quasiment 1% du PIB annuel du pays, généré en à peine 4 semaines. C'est colossal.
C'est colossal, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que le magazine essaie de rationaliser ça. Cette fourchette entre 517 000 et un peu plus d'un million de visiteurs, elle sort pas de nulle part. Elle est basée sur une modélisation, en fait. Les analystes ont pris la population des 23 pays qualifiés, ce qui représente un bassin de plus d'un milliard de personnes, quand même, et ils ont appliqué un ratio de supporters potentiels. C'est une hypothèse, bien sûr, mais ça donne l'échelle du marché qui est visée.
Oui, et ce qui m'a frappé à la lecture, c'est que tous ces visiteurs ne se ressemblent pas. L'article insiste beaucoup sur une sorte de double visage de ce tourisme sportif. Il y a un effet de volume, d'un côté.
Et un effet de valeur, de l'autre.
C'est ça.
Mais deux clientèles presque opposées. D'un côté, vous avez la masse, le volume, des supporters qui viennent de pays très peuplés, comme le Nigeria, l'Égypte. Leur pouvoir d'achat individuel est peut-être plus limité, mais leur nombre, lui, peut créer un impact énorme.
Et de l'autre côté, j'imagine des supporters moins nombreux, mais avec des portefeuilles mieux garnis.
Précisément, c'est l'effet valeur. Des supporters qui viennent d'Afrique du Sud, du Gabon, du Botswana, là où le PIB par habitant est plus élevé. Ils seront peut-être moins nombreux, mais leur dépense moyenne par jour sera bien supérieure. Donc l'enjeu pour toute l'industrie du tourisme, des grands hôtels, aux petits restaurants, c'est de s'adapter. Il faut gérer les grands volumes à des prix accessibles et en même temps offrir des services premium pour capter la dépense plus élevée. C'est un exercice d'équilibriste, très complexe.
Et en parlant de dépenses, l'article donne un calcul assez précis. On estime une dépense quotidienne moyenne entre 600 et 800 dirhams par supporter. Sur 10 nuits, en moyenne. Rien que sur la phase de poule, ça nous amène à une fourchette de 3 à 8 milliards de dirhams. Là, on comprend l'enjeu.
Oui, et le vrai défi, c'est pas seulement d'encaisser l'argent. Le magazine souligne que l'objectif à long terme, c'est de fidéliser, de transformer ses supporters en touristes. Si l'expérience est mauvaise, vous voyez, des aéroports saturés, des prix qui flambent, des transports compliqués. L'effet peut être contre-productif. Ça peut nuire à l'image du pays pour des années. Donc, la gestion des flux et des prix devient aussi cruciale que la qualité de la pelouse.
Alors, parmi les acteurs économiques qui doivent se frotter les mains, la source en met un particulièrement en avant. La compagnie aérienne nationale, la Royal Air Maroc.
Forcément, la RAM est en première ligne. L'article avance qu'elle pourrait transporter, à elle seule, au moins 500 000 supporters. En termes de chiffre d'affaires, ça représente près de 1,5 milliard de dirhams de recettes en plus. En un mois. C'est une bouffée d'oxygène, bien sûr. Mais c'est surtout une occasion en or de consolider son hub de Casablanca, de le positionner comme la porte d'entrée de l'Afrique.
Mais j'imagine que la RAM ne peut pas tout faire toute seule. Une fois les supporters à l'aéroport, il faut bien les amener dans les villes hôtes.
Ah, c'est une excellente remarque. Et si on connecte les points, on voit que ce n'est pas juste le test d'une compagnie aérienne. C'est le test de tout l'écosystème de la mobilité au Maroc. Le magazine parle d'un stress test grandeur nature. L'ONDA, qui gère les aéroports, va devoir absorber des pics de trafic. inédit. Et surtout, l'ONCF, la Compagnie des Chemins de Fer, va jouer un rôle vital. Son réseau, et notamment la ligne à grande vitesse, doit devenir le système circulatoire de la compétition. Et ça, c'est sans parler des bus, des taxis, c'est toute la chaîne qui est mise à l'épreuve.
Et cette répartition géographique, elle est intéressante. L'article publie une carte, et il y a une ville qui se détache, mais alors très nettement, Rabat. La capitale, c'est l'épicentre du tournoi. 12 matchs de poule, des huitièmes, des quarts, une demi. Et la finale, c'est énorme pour une seule ville. Pendant ce temps, Marrakech ou Agadir n'ont que 5 matchs, Fès ou Tanger, seulement 3. Pourquoi cette concentration sur Rabat ?
C'est une décision stratégique, oui, et elle n'est pas anodine. Concentrer les matchs les plus importants dans la capitale, ça maximise l'impact médiatique. Et logistique aussi. C'est plus simple de gérer la sécurité, les médias, les délégations officielles en un seul point. Mais c'est une stratégie à double tranchant. Ça crée un défi logistique et sécuritaire immense pour Rabat. La ville va devoir gérer des vagues massives de supporters sur une période très courte. C'est un pari audacieux.
Et tout ça, ça nous amène à un point que le magazine martèle. L'expression revient tout le temps. La CAN 2025 est un véritable test grandeur nature. Un test pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030.
C'est exactement le mot. Et je dirais même que c'est plus qu'un test, c'est une audition. Une audition à ciel ouvert, devant le monde entier. Le succès, là, il ne se mesurera pas au nombre de buts, mais à la fluidité dans les aéroports, à la ponctualité des trains, à l'efficacité de la sécurité. Chaque détail va être scruté. La connexion Wi-Fi dans les fan zones, les services d'urgence, tout. Le magazine est très clair là-dessus. La crédibilité de la candidature marocaine pour 2030, elle se joue en grande partie pendant ces 4 semaines.
Cette idée de répétition générale, c'est une transition parfaite. Parce qu'un événement comme ça, il n'arrive pas dans le vide. Il s'inscrit dans un contexte économique. Et justement, le reste du magazine nous donne une photo de ce contexte marocain de fin 2025. On quitte les stades pour regarder le tableau d'ensemble.
Oui, et c'est ce qui rend cette source particulièrement riche. Ça nous permet de zoomer sur la CAN, puis de dézoomer pour voir le paysage global.
Le premier élément de ce paysage, c'est un signal qui vient des marchés mondiaux. Le magazine annonce que le baril de pétrole est passé sous la barre des 60 dollars. Pour l'article, c'est le signe que la prime de risque géopolitique liée aux tensions internationales est en train de s'estomper. Apparemment, l'offre mondiale est abondante et la demande, surtout en Chine, ralentit.
Alors, décryptons ce que ça veut dire pour une économie comme celle du Maroc. À première vue, pour un pays qui importe quasiment toute son énergie, c'est une excellente nouvelle. La facture énergétique baisse, c'est bon pour l'État, ça aide à maîtriser l'inflation, donc c'est bon pour les ménages. Mais, et c'est là que l'analyse devient plus subtile, un pétrole durablement bas, ça peut être le symptôme d'une maladie plus grave, une croissance mondiale qui s'essouffle.
C'est ce que l'article appelle un pétrole d'inquiétude, plutôt qu'un pétrole de prospérité.
Tisse aussi. Et ça, à moyen terme, ça peut se traduire par une baisse des exportations marocaines, voire une baisse des arrivées de touristes européens. Donc, bonne nouvelle pour les coûts à court terme, mais un signal d'alarme pour la demande future.
Passons du global au local. Au quotidien des Marocains, le magazine met en lumière deux mesures qui semblent aller dans des directions opposées. D'un côté, on annonce une nouvelle hausse des taxes sur le tabac au 1er janvier 2026, et de l'autre, le gouvernement acte une hausse de 5% du salaire minimum, le SMIG. On donne d'une main et on reprend de l'autre, c'est ça ?
C'est l'illustration parfaite du dilemme classique des politiques publiques. D'un côté, l'État a de bonnes raisons d'augmenter les taxes sur le tabac, augmenter ses recettes fiscales, et puis c'est un objectif de santé publique. De l'autre, via le dialogue social, il acte une hausse du SMIG pour soutenir le pouvoir d'achat face à l'inflation.
La question, c'est de savoir quel est l'effet final pour les personnes concernées.
Et c'est toute la question que l'article laisse en suspens. Parce que les ménages à revenus modestes, ce sont souvent eux qui consomment le plus ces marques de cigarettes populaires. Et ce sont aussi les principaux bénéficiaires de la hausse du SMIG. Alors, est-ce que le gain de pouvoir d'achat du salaire sera annulé pour un foyer de fumeurs par la hausse du prix du tabac ? C'est un calcul complexe. Ça montre bien la difficulté de mener de front des politiques budgétaires, sociales et sanitaires.
Terme, le magazine met aussi en avant plusieurs projets plus structurants, des projets qui dessinent une vision à plus long terme. J'en ai relevé 3. Le premier, dans le tourisme. Un partenariat entre la station Saïdia Méditerranéa et le géant TUI France.
Ce qui est important ici, c'est pas juste un contrat. C'est une stratégie de montée en gamme. S'allier avec un mastodonte comme TUI, C'est s'assurer des flux de touristes, oui, mais c'est surtout structurer une destination pour qu'elle réponde aux standards internationaux. On cherche à désaisonnaliser, à créer une destination durable. Le deuxième projet, il est culturel et technologique. Le lancement de l'application Rabat Patrimoine. Ah, ça c'est un exemple parfait de valorisation d'actifs immatériels. Le patrimoine historique, il est là, mais en le rendant accessible, interactif, via une application. On le transforme en un produit d'appel touristique beaucoup plus puissant. L'idée, c'est d'inciter les visiteurs à rester plus longtemps à Rabat et donc à créer plus de valeur.
Et enfin, le troisième exemple nous emmène dans la santé, l'expansion internationale du groupe privé Actital qui prend une participation dans un hôpital à La Mecque. Et là, on touche à une autre dimension, l'exportation du savoir-faire.
Le fait qu'un groupe privé marocain devienne un acteur régional dans un secteur aussi pointu que la santé, c'est un signal de maturité économique très fort. On n'est plus seulement dans l'attraction d'investissement, on est dans la projection de la puissance économique marocaine à l'extérieur.
C'est fascinant parce que, pris séparément, ces trois projets semblent très différents. Mais quand on les regarde ensemble...
Exactement. Si on prend un peu de recul, ces trois initiatives, juxtaposées à la CAN, dessine une stratégie nationale extraordinairement cohérente. La CAN, c'est le message qui dit « Venez au Maroc, on sait accueillir les grands événements ». Le partenariat avec TUI, c'est la promesse et on va vous accueillir avec des standards de qualité. L'application Rabat Patrimoine, c'est l'incitation et vous aurez des raisons de rester. Et l'expansion d'Actital, c'est la démonstration, notre savoir-faire est si solide que maintenant, c'est nous qui venons nous développer chez vous. C'est une stratégie à 360 degrés.
Donc, pour résumer ce que cette plongée dans éco-business nous apprend, d'un côté, on a une CAN 2025 qui est bien plus qu'un tournoi de foot. C'est un projet économique total, un examen de passage avant le Mondial 2030. Et de l'autre, une économie qui, en parallèle, compose avec des signaux mondiaux complexes, tout en opérant des ajustements internes et en poussant des projets stratégiques.
C'est une excellente synthèse. Et ça nous laisse avec une question de fond. Une pensée pour la suite. L'organisation de ces méga-événements, la CAN, la Coupe du Monde, ça exige de mobiliser des ressources colossales. On construit des stades, on modernise des aéroports. Tout ça pour un pic d'activité qui dure, au fond, à peine un mois.
C'est vrai. L'investissement est permanent, mais l'événement est éphémère.
Voilà. Et la vraie question qui reste en suspens, bien au-delà des retombées directes, c'est celle de l'héritage. Comment un pays s'assure que l'élan d'un mois de fête se transforme en développement durable et surtout inclusif pour les 10, 20, 30 années qui suivent? Comment faire pour qu'un stade flambant neuf ne devienne pas une coquille vide dans 3 ans? Le vrai défi, une fois que les lumières des stades se seront éteintes, sera de s'assurer que cet investissement spectaculaire profite réellement et sur le long terme à l'ensemble de la population. C'est peut-être ça le match le plus difficile à gagner.